Merci d'écouter RFI. Il est 13h en temps universel, 15h ici à Paris.
RFI Midi.
Dernière partie d'RFI Midi, nous irons aux États-Unis dans quelques minutes où la Maison-Blanche elle-même réagit à la campagne de haine contre les migrants haïtiens dans l'état de l'Ohio. Nous appellerons nos confrères du site Haïbopost qui publie une enquête sur de nouveaux abus des gangs qui infiltrent les camps de déplacés et exigent des rapports sexuels des femmes en échange de la délivrance d'une aide humanitaire. Nous parlerons aussi des ravages de la tranque aux États-Unis que l'on surnomme la drogue du zombie. Et puis l'actualité des Outre-mer, Benoît Ferrand. Certains envisagent de supprimer l'octroi de mer en Martinique.
Oui, et selon le président de l'Association des maires de la Martinique, cette suggestion de la collectivité territoriale pour lutter contre la vie chère serait le type même de la fausse bonne idée. Nous entendrons tout à l'heure M. Justin Pamphile.
À tout à l'heure.
RFI Midi.
Et d'abord, c'est le journal Charlotte Hydrac avec à la une la campagne pour la présidentielle aux États-Unis. Donald Trump est ce vendredi dans le Nevada, Kamala Harris en Pennsylvanie.
Oui, à la conquête des électeurs indécis dans ces états pivots, meeting après meeting, la vice-présidente démocrate et son rival républicain ne s'épargnent pas à distance, mais il n'y aura pas de nouveau face-à-face comme le souhaitait Kamala Harris. Après le débat télévisé de mardi sur la chaîne ABC, Donald Trump a écarté l'option d'un match retour. Tour, David Thompson.
En meeting dans l'Arizona, Donald Trump assure avoir enregistré une victoire monumentale. Mardi soir sur la chaîne ABC face à celle qu'il surnomme Camarade Kamala.
Monumental victory over Comrade Kamala Harris.
Par conséquent, le candidat républicain juge inutile la tenue d'un nouveau débat contre sa rivale démocrate.
Comme on a déjà fait deux débats, qu'ils ont été victorieux, on ne fera pas de troisième débat.
Selon un sondage CNN, 63% des Américains estiment pourtant qu'Harris a gagné ce débat. Mais qu'importe, Trump n'en démord pas. Selon lui, si la campagne de sa rivale demande un nouveau débat, ce serait justement parce qu'elle aurait perdu le premier.
Quand un boxeur perd son combat, ses premiers mots sont de demander sa revanche, et c'est exactement ce qu'elle demande.
Et pourtant, deux jours après, Donald Trump n'en finit plus de dénoncer un débat truqué. En meeting, il s'en prend même aux deux modérateurs d'ABC qui l'accusent de partialité.
Ces deux personnes devraient être virées et elles le seront bientôt.
Nous devons aux électeurs un autre débat. Réagit immédiatement Kamala Harris en meeting en Caroline du Nord, alors que sur les réseaux sociaux, l'un de ses principaux conseillers qualifie Trump de poule mouillée. David Thompson, Miami RFI.
Oui, on le disait aujourd'hui, Kamala Harris, elle est en Pennsylvanie, un état où les troupeaux de moutons côtoient les puits de gaz naturel et où la question de la fracturation hydraulique, cette technique controversée de production, est devenue un enjeu du scrutin, Nicolas Feldman, car la candidate démocrate a changé de position là-dessus.
Oui, nous sommes en 2019, alors en campagne pour soutenir Joe Biden, Kamala Harris est claire.
Il n'y a pas de sujet, je suis pour interdire la fracturation hydraulique.
Mais voilà, mardi dernier, 5 ans plus tard, elle opère un virage à 180 degrés lors du débat face à Donald Trump.
Je n'interdirai pas la fracturation hydraulique. Je ne l'ai pas fait en tant que vice-présidente et j'ai même soutenu un vote décisif qui a permis d'ouvrir de nouvelles concessions.
Donald Trump a fait des revirements de sa rivale, un angle d'attaque. Il affirme que la victoire de Kamala Harris sonnerait la mort des énergies fossiles. La fracturation hydraulique qui consiste à injecter des millions de litres d'eau et des produits chimiques dans la roche pour libérer du pétrole ou du gaz est controversée pour son impact sur l'environnement. Mais dans l'état clé de Pennsylvanie, cette technique est aussi synonyme de croissance et d'emploi. En 2022, par exemple, la Pennsylvanie a produit plus de gaz naturel que le Qatar. Les retombées pour les entreprises et les propriétaires fonciers sont énormes. En 2016, c'est avec ce discours pro-hydrocarbures que Donald Trump avait réussi à séduire une partie de l'électorat de Pennsylvanie et fait basculer cet état historiquement démocrate. Une victoire qui avait alors pesé dans son accession à la Maison-Blanche.
Nicolas Feldman, les États-Unis où l'avionneur Boeing fait face à sa première grande grève depuis plus de 15 ans avec le coup d'envoi du mouvement ce matin dans la région de Seattle. Les salariés ont voté massivement pour le débrayage et contre la nouvelle convention de travail proposée par Boeing. Conséquence, deux grandes usines sont à l'arrêt et la production est en partie paralysée.
Des discussions cruciales pour l'Ukraine. Le président américain reçoit tout à l'heure le premier ministre britannique sur la question de l'utilisation par Kiev de missiles occidentaux de longue portée contre la Russie.
C'est une demande pressante de Kiev. Le président ukrainien accuse d'ailleurs aujourd'hui les Occidentaux d'avoir peur, dit-il, d'évoquer une levée des restrictions. Alors que l'Ukraine fait face en ce moment à une contre-offensive russe dans la région frontalière de Koursk, le président Zelensky affirme que 40 000 soldats russes y combattent. L'Ukraine, qui a par ailleurs annoncé le retour au pays de 49 prisonniers de guerre détenus en Russie, cela sans précision à ce stade sur les conditions de ces libérations et un éventuel échange. La Russie, elle, a retiré leur accréditation à 6 diplomates de l'ambassade britannique à Moscou. Ils sont soupçonnés d'espionnage, accusation totalement infondée, répond le gouvernement britannique. Plus de seniors et moins de naissances. En Chine, le système des retraites est sous pression. Les employés vont devoir travailler plus longtemps. Les autorités ont annoncé le relèvement de l'âge du départ à la retraite progressivement de 60 à 63 ans pour les hommes. Et pour les femmes, l'âge de départ passera à 55 ou 58 ans selon le type de travail exercé.
Le Brésil n'apprécie pas la nouvelle réglementation européenne anti-déforestation et le fait savoir.
Brasilia demande à la Commission européenne de reporter cette loi qui prévoit d'interdire la commercialisation dans l'UE de certains produits qui proviendraient de terres déboisées après 2020. Alors dans cette liste de produits, il y a par exemple le café, le soja ou encore la viande bovine. Et c'est une loi injuste selon le Brésil, Pauline Glaise.
Le Brésil voit dans la loi européenne un instrument unilatéral et punitif et considère qu'elle est contraire au principe de souveraineté. Autre argument avancé, elle serait discriminatoire. Pourquoi ? Parce qu'elle touche uniquement les pays qui possèdent des ressources forestières. Le réseau d'ONG, Observatoire du Climat, juge ce courrier lamentable et étonnant. Étonnant car le président Lula s'est engagé à mettre fin d'ici 2030 à la déforestation illégale. D'ailleurs, depuis son retour au pouvoir, la tendance est à la baisse en Amazonie. Il n'en reste pas moins que l'agriculture est un pilier de l'économie du pays et Brasilia s'inquiète pour ses exportations. Et le Brésil n'est pas seul à regarder la réglementation européenne d'un mauvais œil. Les États-Unis ont déjà demandé un report. D'autres pays, en Afrique et en Asie, s'inquiètent. Même en Europe, elle fait grincer des dents. Le syndicat français de l'industrie de l'alimentation animale appelle à clarifier d'urgence les conditions fixées pour l'importation de soja. L'origine des produits devra être prouvée par géolocalisation et le syndicat juge les conditions complexes et floues.
Et l'Allemagne également demande à l'Union européenne de reporter l'entrée en vigueur de cette loi sur la déforestation prévue en fin d'année. Le temps pour les entreprises de mieux se préparer, dit Berlin. Et puis le pape François dans l'avion du retour en ce moment vers le Vatican après sa longue tournée en Asie-Pacifique qui s'est achevée à Singapour. 12 jours de tournée, un rythme effréné, mais le pape est apparu en bonne forme. Dans son dernier discours, le souverain pontife a appelé les jeunes à sortir de leur zone de confort. Selon lui, je le cite, un jeune qui n'a pas envie de prendre de risques est un vieux. 15h08 ici à Paris. RFI Midi, la suite avec vous Anne Cantner.
Et c'est une leçon pour nous tous. Merci Charlotte Hydrac. Nous sommes sur le continent américain durant les 20 prochaines minutes et on va commencer par prendre la direction des États-Unis.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Où la polémique concernant les migrants haïtiens et la campagne de haine lancée par les républicains ne retombe pas.
Some Haitians, Haitians American, Haitian immigrants are fearing for their safety right now. Because of result of conspiracy theory.
Certains Haïtiens, des Haïtiens américains, des immigrants haïtiens craignent pour leur sécurité en ce moment à cause du résultat de la théorie du complot. Voilà de quoi il s'agit, c'est ce que disait hier la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, au sujet de fausses informations véhiculées par les républicains, reprises lors du débat mardi soir par leur candidat Donald Trump. Informations totalement fausse, on le rappelle, selon lesquelles certains migrants haïtiens dans l'état de l'Ohio voleraient des animaux domestiques, des chats, des chiens pour les manger. Cette rumeur, elle a beau avoir été démentie à plusieurs reprises par les autorités locales, elle a déjà produit des effets à Himlipold et c'est à la une de votre revue de presse.
Exactement, la mairie de Springfield a été évacuée hier jeudi après une alerte à la bombe. Face à cette rhétorique anti-immigrant et raciste, eh bien, le maire de Springfield monte au créneau. Nous souffrons, explique-t-il aujourd'hui dans une interview publiée par le New York Times. En plus de la mairie, deux écoles ont été évacuées hier. Les menaces ont été envoyées par mail, selon le maire, et ces menaces visent clairement les immigrants installés dans la ville, toujours selon le maire. Le New York Times précise que l'arrivée de milliers d'Haïtiens a certes mis à rude épreuve les écoles et certains services publics, mais la plupart d'entre eux sont légalement arrivés aux États-Unis et beaucoup ont trouvé un emploi dans l'industrie locale. C'est la mort, en fait, d'un jeune garçon tué l'an dernier lorsque son bus scolaire a été percuté par une voiture conduite par un Haïtien qui a provoqué la colère et l'anxiété de certains habitants. Récemment, donc, les Républicains ont commencé à exploiter cet incident pour nourrir leurs propos anti-immigration et notamment anti-haïtien.
Et comment est-ce que les Haïtiens de Springfield vivent cette situation ?
Eh bien, très mal, comme on peut lire aujourd'hui dans le Nouvelliste, journal de Port-au-Prince. Le journal a pu joindre Villès d'Orsainville, responsable du centre d'aide et de soutien à la communauté haïtienne. Selon lui, les rumeurs totalement infondées des candidats républicains affectent la santé mentale des Haïtiens de Springfield. Face aux allégations mensongères, certains Haïtiens aux États-Unis se mobilisent. C'est le cas, par exemple, à Long Island, près de New York, où, d'après toujours le Nouvelliste, des personnalités politiques et des leaders communautaires de la diaspora ont improvisé un sit-in. C'était hier jeudi.
Achim Lipold, on vous retrouve dans quelques minutes. On continue à parler d'Haïti d'abord.
RFI Midi.
Comme chaque mois, nous retrouvons nos confrères d'Aïbopost, site de reportage et d'enquête de référence en Haïti. Rebecca Bruni est avec nous aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez enquêté sur le fonctionnement de centres d'accueil pour les très nombreux déplacés de Port-au-Prince. Votre article est intitulé « Sexe contre kit ». On y apprend que les gangs infiltrent les abris et qu'ils en profitent pour commettre des agressions contre des femmes et contre des enfants en exigeant des rapports sexuels en échange d'aide humanitaire.
Oui, effectivement. Début août, j'ai pu me rendre plus précisément au lycée Marie-Jeanne. Donc là, j'ai pu m'entretenir avec plusieurs résidents, notamment des femmes, qui affirment que des membres du comité, plus précisément des hommes, parce qu'il y a également des femmes au niveau du comité, mais les hommes les exigent à plusieurs reprises d'avoir des rapports sexuels avec eux pour qu'ils acceptent de leur donner les kits qui sont là justement pour être distribués. Parce qu'il y a pas mal d'organisations locales et internationales qui distribuent des kits, que ce soit des kits hygiéniques pour les femmes, encore des kits alimentaires. Je me suis rendue sur les lieux. Oui, les personnes là qui sont responsables de gérer le site, malheureusement, ils distribuent une partie au tout début, mais justement après avoir distribué, on va dire, un tiers, et pour le reste, soit ils les vendent, soit ils exigent aux femmes de coucher avec eux pour pouvoir les leur donner.
Et ce système, il atteint même un cynisme sordide, puisque vous écrivez que les gangs à Delma choisissent parfois eux-mêmes les sites sur lesquels seront accueillis les déplacés victimes de leur violence.
Au niveau de certains quartiers, de certaines zones qui justement sont contrôlées et en majeure partie par les gangs armés, ces malfrats, ils opèrent de manière assez, on va dire, intelligente, puisque eux-mêmes, ils font en sorte de prévoir certains endroits où les personnes, une fois qu'ils les chassent de leur maison, où elles pourront se réfugier. Donc, l'objectif, c'est qu'eux-mêmes, ils puissent avoir le contrôle de tout ce qui entre et sort au niveau de ces camps. Donc, y compris les kits alimentaires. Et pour pouvoir s'assurer du contrôle qu'ils établissent au niveau de ces sites, ils font en sorte d'infiltrer les comités qui sont là pour gérer les camps.
Et même quand ils ne choisissent pas directement, les gangs sont impliqués parce que les organisations d'aide sont obligées de négocier avec eux pour travailler et pour pouvoir soutenir les déplacés.
Exactement. Donc, il y a certaines zones, par exemple, si on prend la commune de Cité-Soleil, encore au niveau de la Saline, des organisations ont dû négocier, on peut dire, négocier avec les gangs pour pouvoir, on va dire, pour pouvoir distribuer les kits ou encore tout ce qu'ils veulent apporter au niveau du camp. Donc, elles doivent négocier avec les chefs de gang, elles doivent négocier avec les membres du comité qui, dans justement certaines zones, sont constitué, on va dire, presque à 100% de membres de gangs. Dans certains cas, certaines organisations ont tout simplement refusé.
Donc l'aide, les kits à destination des déplacés n'ont pas pu être distribués. Votre article, Rebecca Bruni, est à lire sur le site aibopost.com.
Le journal d'Haïti et des Amériques sur RFI.
On va continuer à feuilleter la presse du continent. Au Brésil, où la pollution bat des niveaux records à Rimlipold, à cause de la chaleur et à cause de la fumée en provenance des incendies en Amazonie et dans d'autres endroits.
Oui, la ville de São Paulo est particulièrement touchée par la dégradation de la qualité de l'air. La mégapole brésilienne est depuis 4 jours l'une des villes les plus polluées au monde, selon Folha de São Paulo. Le journal relève que le Brésil n'a pas un protocole en matière de pollution. Une ville, par exemple, comme Londres ou Paris, dont la même situation que São Paulo aurait déjà adopté des mesures telles que la limitation de la circulation des véhicules, la suspension des cours et d'autres activités pour éviter d'exposer les habitants au risque de pollution. Mais au Brésil, les municipalités refusent d'informer la population pour éviter de leur dire que la situation est critique, peut-on lire dans Folha de São Paulo. À la pollution s'ajoute la sécheresse record. Selon o Estadão, elle conduit déjà les municipalités à rationner de l'eau. Ça se passe dans l'intérieur de l'État de São Paulo, donc autour de la ville de São Paulo. La situation devient critique car les autorités ont aussi besoin de l'eau pour combattre les incendies.
Achim Lipold, votre revue de presse à retrouver sur internet RFI.fr.
RFI Midi.
On l'appelle la drogue du zombie et ceux qui en prennent sont reconnaissables au premier coup d'œil tant les effets sont forts sur le corps. La tranque fait des ravages aux États-Unis et c'est malheureusement une étape de plus dans la crise des opioïdes qui frappe le pays. 650 000 morts en moins de 30 ans et cette crise s'affiche en ce moment au festival Visa pour l'image dans le sud de la France. Sur les photos de Gaëlle Turine qui a parlé à Muriel Paradon de son travail à Philadelphie. Dans le quartier de Kensington, c'est là que la tranque a fait son apparition.
Gaëlle Turine, bonjour.
Bonjour.
Vous avez photographié les ravages de la tranque aux États-Unis, qui a émergé dans le sillage des opioïdes ces derniers temps. D'abord, qu'est-ce que c'est que la tranque ?
La tranque, c'est une drogue qui mêle un opioïde avec un tranquillisant pour bestiaux qui s'appelle la xylazine et qui est d'une extrême gravité et agressivité pour le corps humain. Et aujourd'hui, la tranque, c'est aussi cette fameuse xylazine, mais mêlée avec du crack ou de l'héroïne. Donc ces trois drogues dites classiques sont aujourd'hui devenues des tranques.
C'est un cocktail qui fait beaucoup de ravages, on voit sur vos photos. Est-ce que vous pouvez nous décrire physiquement ce que ça fait ?
Les symptômes les plus frappants, ce sont des blessures absolument terribles qui apparaissent assez rapidement, des blessures profondes qui peuvent gangréner tout un membre inférieur ou supérieur. C'est la raison pour laquelle dans le quartier, on croise énormément de personnes qui ont été amputées parce qu'il y a un moment, si la blessure n'est pas soignée comme il le faut, et donc ça veut notamment dire un arrêt absolu des prises de doses de tranque, les médecins n'arrivent pas à juguler le problème et ils en arrivent à devoir amputer.
Et à mourir aussi, c'est assez mortel comme drogue.
Oui, absolument, parce qu'aujourd'hui, scientifiquement, il est prouvé que la tranque est environ 50 fois plus puissante et 50 fois plus addictive que l'héroïne, ce qui donne quand même le ton de la dangerosité de cette substance.
Je vais vous faire commander juste cette photo où on voit ce quartier de Kensington où sont ces personnes qui prennent de la drogue. Et puis au loin, des tours du quartier d'affaires. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer sur cette image ?
Oui, mais j'ai voulu montrer que finalement, le quartier de Kensington, il est à la fois loin de ce quartier d'affaires et en même temps, il est...
À Philadelphie.
À Philadelphie, tout à fait. Il est un jet de pierre. Mais qu'il y a des mondes qui séparent ces deux univers. Bien qu'on retrouve dans l'ensemble de la ville des toxicomanes à la tranque, parce qu'on les reconnaît immédiatement de par leur position corporelle.
Ils sont pliés en deux, comme des zombies. Hein.
Exactement. Et ils ont une certaine manière très, très singulière de se déplacer aussi. Et donc voilà, c'est ça, c'est cette photo, ça indique qu'il y a une forme d'opacité ou de frontière entre ces deux mondes qui ne se côtoient absolument pas, mais qui se rejoignent parce qu'ils partagent une même ville, quoi.
Et on a l'impression qu'on va toujours plus loin dans la dangerosité, dans l'horreur. Qu'est-ce que ça dit des États-Unis aujourd'hui ?
Ça met en lumière la très grande fragilité de leur système de couverture des soins, qui empêche la plupart des Américains de pouvoir être soignés comme ils le devraient. Ça parle d'une jeunesse... parce que les consommateurs de tranque sont issus de tous les milieux socio-économiques et culturels qui existent aux États-Unis. Et c'est une jeunesse qui, visiblement, y a un enclin en tout cas à utiliser des substances. Le nombre de toxicomanes a littéralement explosé. Donc est-ce qu'il faut tirer des conclusions sur ce que ça dit des États-Unis? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un pays qui n'assume pas sa situation, qui fait face aujourd'hui, et là je reprends les termes de la Maison-Blanche, à un véritable danger en termes de santé publique.
Oui, parce que Joe Biden avait dit qu'il voulait faire de cette question des opioïdes et des drogues en général une priorité. On s'aperçoit qu'il a eu du mal à lutter contre cela, que c'est un échec. Pourquoi ?
Oui. La raison principale est que les plus grands labos clandestins qui produisent la tranque ne sont pas installés sur le sol américain. Et que donc les États-Unis doivent externaliser les actions à mener pour démanteler les réseaux mafieux. Ils donnent énormément d'argent au Mexique qui agit, mais ils sont complètement dépassés par les moyens mis en œuvre par les cartels mexicains. Et avec les Chinois, la demande a été formulée, mais les Chinois n'interviennent absolument pas. Ce qui fait que finalement les cargaisons de tranque ou de fentanyl, donc c'est l'opioïde le plus répandu aux États-Unis, arrivent de plus en plus régulièrement sur le sol américain.
Le photographe Gaël Turine au micro de Muriel Paradon. Ces photos sont exposées en ce moment au festival Visa pour l'image. Cette crise des opioïdes, elle a marqué les États-Unis tellement qu'elle a inspiré de nombreuses chansons. Et nous vous en parlons dans notre chronique musicale du vendredi, une plongée dans la campagne électorale aux États-Unis avec l'un des auteurs du livre Rock'n'Road Trip, aujourd'hui Julien Grosso. Il raconte à Julien Coquel-Rohem que, même si on n'en parle pas trop de cette crise pour l'instant dans la campagne, le sujet sera forcément l'un des dossiers prioritaires du futur président.
Julien, je crois reconnaître The Offspring.
Et oui, un groupe qui, avec ses tubes punk à tendance pop, a fait remuer toutes les cours de lycée dans les années 90. Là, on est en 2021 avec le titre The Opioid Diaries, qu'on pourrait traduire par chronique de la défonce aux opiacés.
Opiacés comme opium ?
Oui, mais opium 2.0. L'origine du problème remonte aux années 1990, quand les médecins ont commencé à prescrire massivement des antidouleurs comme le fentanyl pour soulager certaines pathologies particulièrement douloureuses.
Mais face aux dérives, l'État fédéral finit par réguler la délivrance des traitements. Le problème, c'est que de nombreux patients sont devenus accros. Privés de médicaments, ils se tournent vers le marché illégal pour se procurer des opioïdes.
Et le trafic s'installe jusqu'à aboutir à la situation actuelle. Nos auditeurs ont peut-être déjà vu des images des rues de Los Angeles, San Francisco, Philadelphie, où des milliers de sans-abri tombés dans l'addiction ressemblent à de véritables zombies. Et si un groupe comme Offspring s'en mêle, c'est que la situation est vraiment devenue catastrophique.
Oui, parce que les musiciens n'ont pas toujours dénoncé les drogues, y compris les plus dures.
Au contraire même, ils ont souvent joué les pousses au crime. Souvenez-vous des années 60, quand les stars de l'époque distillaient des messages à peine codés dans des chansons devenues des standards. Les Stones avec Brown Sugar, les Birds avec 8 Mile High, Jefferson Airplane avec White Rabbit. Les exemples ne manquent pas, sans parler des Beatles avec Lucy in the Sky with Diamonds, dont les initiales LSD feront couler beaucoup d'encre. Un hasard selon John Lennon.
Certains autres sont beaucoup plus directs.
Et comment ? Écoutez ce groupe culte de la scène new-yorkaise 60s. Lexington, 125, feel sick and dirty, more dead than alive, I'm waiting for my man.
Le Velvet Underground avec I'm Waiting for the Man en 1967.
Un morceau légendaire dans lequel il est déjà question d'opiacés, d'héroïne cette fois. C'est tout simplement la chronique d'un deal dans le New York crasseux des années 60. L'adresse du rendez-vous, le prix de la dose, tout y est. Et cinq pistes plus loin, sur le même album, le message est encore plus explicite. It's my wife, and it's my life, because a man to my vein leads to a sinner.
Du Velvet Underground qui chante les sensations d'un shoot d'héroïne.
Une autre époque, le symbole même de la subversion dans les années 60, à mesure que les substances deviennent de plus en plus dures, marijuana, puis LSD, puis cocaïne, puis enfin héroïne, la musique devient de plus en plus accro aux drogues. C'est la naissance du mouvement psychédélique. Mais après la montée, vient au début de la décennie suivante la redescente, pénible et douloureuse.
Pour ceux qui redescendent, car certains ne redescendront jamais.
Les destins brisés ne manquent pas. En quelques mois, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison sont tous fauchés par une overdose. L'ambiance change et la tonalité des chansons aussi. Neil Young, par exemple, sera un des premiers à dénoncer le drame de l'héroïne sur son album Harvest en 1972, après la mort d'un de ses musiciens.
Dans les années 70, l'ambiance change donc, mais les artistes continuent de se complaire dans leurs excès érigés en mode de vie, le fameux sex, drugs and rock'n'roll.
Et les overdoses s'accumulent, mais sans aller jusqu'à la mort, la drogue c'est aussi la dépression, l'isolement, la détresse. Une descente aux enfers personnels dépeinte en 1991 dans cet immense tube. I'm all alone. At least I have her love. The city, she loves me. Lonely as I am, together we cry.
Under the Bridge, la spirale de la drogue dans le Los Angeles du début des années 90, chantée par les Red Hot Chili Peppers.
Les démons de l'héroïne qui poussent Anthony Kiedis sous les ponts du centre-ville de la Cité des Anges. C'était il y a plus de 30 ans et ça annonçait la crise actuelle.
Le défi ne sera pas mince pour le prochain locataire de la Maison Blanche. Merci Julien, on se retrouve la semaine prochaine.
Avec plaisir, à vendredi.
À vendredi.
Julien Grosso, l'un des auteurs du livre Rock'n'Road Trip, avec Julien Coquel-Rohem, notre chronique à retrouver la semaine prochaine sur RFI ou quand vous le voulez sur notre site internet. Et pour l'heure, on va parler de l'actualité des Outre-mer avec vous, Benoît Ferrand. Alors, supprimer l'octroi de mer sur un certain nombre de produits pour lutter contre la vie chère, eh bien pour le président de l'Association des maires de la Martinique, c'est une fausse bonne idée.
Oui, le type même de la fausse bonne idée, a-t-il dit. Alors, cette suggestion et même cette proposition de la collectivité territoriale ne lui plaît pas du tout, car la disparition de cette taxe spécifique aux DOM porterait un coup très rude aux finances communales. Écoutez Justin Panfil au micro d'Alain Livory.
Quand on met les taux d'octroi de mer à zéro, ceux qui sont le plus impactés, ce sont les communes. Et je n'ai jamais eu de discussion ni en amont ni en aval avec le président du conseil exécutif sur la proposition qu'il a aujourd'hui transmise dans le cadre de cette table ronde. Donc j'ai moi-même provoqué d'ici une dizaine de jours une rencontre avec l'ensemble des maires de Martinique pour qu'on puisse aborder cette question-là. Nous allons leur présenter l'étude qui a été réalisée par un cabinet qui a été mandaté justement et qui va mettre en lumière le réel impact de l'octroi de mer dans la question de la constitution des prix et de la vie chère. Je répète ce que je dis souvent, c'est que je voudrais qu'on me clarifie comment la péréquation serait structurée et comment la compensation serait structurée. Parce qu'aujourd'hui, au moment où je parle, il y a des exonérations qui sont déjà appliquées sur un certain nombre de produits. Donc les mairies, la collectivité territoriale participent déjà un peu à cette réduction de vie chère.
Un tout autre sujet, il y a eu les singes verts, il y a maintenant les pigeons. Sur l'île de Saint-Martin, les scientifiques tirent la sonnette d'alarme et appellent à l'éradication pure et simple de ces volatiles envahissants venus d'Amérique du Sud. Franck Aristide de la Première Guadeloupe.
Il a été repéré pour la première fois il y a une dizaine d'années au nord-est de Saint-Martin, confiné aux habitats côtiers. Mais depuis, le pigeon jounude, originaire d'Amérique du Sud, a commencé à rapidement proliférer sur l'ensemble du territoire, y compris en zone forestière et en zone urbaine. D'une vingtaine d'observations d'individus en 2013, désormais plus de 60 ont été signalés et la probabilité de voir plusieurs oiseaux simultanément et plus un seul augmente au fil du temps. Le volatile représente aujourd'hui une menace sérieuse pour la biodiversité de l'île, particulièrement pour les autres pigeons et tourterelles avec lesquels il rentre en compétition pour les ressources alimentaires et les sites de nidification. Sa capacité d'adaptation et de vol suggère même qu'il pourrait bientôt s'installer également à Saint-Barth et en Guyane. Les scientifiques demandent donc aux autorités locales d'éradiquer rapidement le pigeon jounude avant que la situation ne devienne incontrôlable.
Bon après-midi, bon week-end, Anne, à lundi.
À lundi, Benoît Ferrand, merci à tous d'avoir été avec nous. RFI Midi, c'est terminé pour aujourd'hui, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve lundi, 11h, temps universel. Vous ne bougez pas, restez sur notre antenne. Vous avez rendez-vous dans quelques secondes avec Catherine Fruchon-Toussaint pour Littérature sans frontières. Très bonne journée à tous.
Les dessous de l'Infox, Sophie Malibaud.
À chaque nouvelle épidémie, son lot d'infox et de théories conspirationnistes. Les mêmes narratifs sont relayés d'une crise à l'autre, Le Mpox ne fait pas exception. Origine, mode de transmission, moyens de prévention et de guérison, la mésinformation prolifère. Le professeur Gilles Pialou, infectiologue, nous aide à y voir plus clair.
Les dessous de l'Infox, avec Sophie Malibaud, tout à l'heure à partir de 17h30 TU sur RFI.